Merci, bonjour à tout le monde. On va commencer, il y a des gens qui sont encore en train de s'inscrire, mais nous on va commencer, comme ça on ne vous lâche pas trop tard. Et merci à tout le monde d'être là, bienvenue au séminaire Histoire de la mode, on est ravis de vous accueillir. Et on constate qu'il y a un fort succès quand nous parlons d'archives, donc nous sommes ravis de le savoir. Et on tient aussi à préciser qu'on a pas mal de succès en ce moment, et du coup... inscrivez-vous bien quand on lance les emails, comme ça vous êtes assurés d'avoir une place. Merci, je laisse Sophie introduire.
Oui, rapidement, juste pour vous présenter en deux mots cette session. En fait, on a fait en septembre 2015 une première session sur le mode et patrimoine, qui avait été aussi un premier succès. Je pense qu'on est très intéressés par l'histoire des marques et par les archives qu'on voit plus ou moins rarement, et surtout l'histoire de la constitution des archives, comment ça s'est constitué, pourquoi, quels sont les liens avec la recherche, avec les étudiants, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le valorise avec le digital, et comment l'archive peut devenir un ami ou une marque qui se retourne sur son passé. Donc on a fait ça en 2015, on a reconduit cette idée de session en septembre et cette année en 2016, et en fait devant le succès, à la fois public mais aussi le succès pour nous, ce qu'on en a appris, ce qu'on en a retiré, en termes de recherche toute simple pour nous en tant que chercheurs, en tant que docteurs ou doctorants, d'avoir une plus grande connaissance des archives, des fonds des maisons. On s'est dit qu'il fallait absolument refaire une session sur mode et patrimoine. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on est vraiment ravis d'avoir pu réunir ces quatre acteurs-là, Chanel, Chloé, Lacoste et Le Sage. Alors on va sans doute avoir des points de convergence assez importants dans les manières de valoriser des archives, mais je pense aussi que chaque maison peut avoir sa propre politique, ses propres enjeux. Donc on est ravis de croiser les regards aujourd'hui sur ces quatre maisons. Alors on vous propose de faire deux premières interventions, de faire une petite pause pour se reposer l'esprit et ensuite d'enchaîner avec deux autres interventions. Donc on va commencer d'abord avec M. Barrère de Le Sage. Vous avez donc rejoint en tant que directeur artistique la Maison Le Sage en décembre 2011, après avoir passé plus de 10 ans au sein de la Maison Lurel, également comme directeur artistique. Alors on sait que Le Sage pour nous, c'est vraiment, il y a toute une mythologie autour, donc on vous remercie sincèrement de venir nous dévoiler votre activité au sein de la Maison et... vos archives, et ce que vous en faites, et je pense qu'on est très nombreux à vouloir en savoir plus sur votre patrimoine. Donc tout va bien.
Bonjour tout le monde. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne suis pas du tout un historien, je ne suis pas du tout un scientifique, je suis juste un directeur artistique, mais je puis vous assurer que je suis absolument passionné par ce que je fais. Je ne pourrais rien faire d'ailleurs sans passion. Et j'ai la chance immense de travailler dans une maison qui est juste sublime. Alors j'espère qu'un petit voyage ensemble dans ces archives vont vous faire, comme moi, rêver. La présentation est en anglais, mais rassurez-vous, je vais vous parler en français, parce qu'en fin de compte, je n'ai pas eu le temps de la traduire. Bref. Alors, Le Sage. Histoire de la... Oui. Parler des archives, c'est impossible pour moi sans parler de l'histoire, et de l'histoire de la mode, l'histoire de la broderie. Alors, on dit que la broderie... Est-ce que vous voyez les images ou pas? J'ai l'impression que je vais me tromper. Appuyez sur un bouton. Ça. Voilà. La broderie est apparue à la nuit des temps. Les premières grandes représentations sont quand même sous l'époque pharaonique. Et d'ailleurs, il y a la vallée des artisans, comme vous devez le savoir. Il y a la vallée des rocs extraordinaire. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir la vallée des artisans, les tambours sont extraordinaires. Et... bref, il y avait des broderies à l'époque égyptienne. Mais la grande histoire de la broderie pour la France va commencer avec les croisades. Car avant les croisades, il y avait ce qu'on appelle la broderie blanche. La broderie faite de fil, qui n'était pas exclusivement blanc d'ailleurs, mais voilà, une broderie très simple, on pourrait dire les broderies de trousseau qu'il y avait de nos grands-mères. C'était à peu près la même histoire, mais avec des motifs de l'époque, évidemment. Au XIIe siècle, environ au XIIe siècle, avec les croisades, vont passer des caravanes de commerce. Et la broderie d'or qui vient de Perse va arriver en Europe. Elle s'installera aussi en Angleterre, d'ailleurs, où il y aura une très très belle broderie. Et elle va réenrichir les vêtements des ecclésiastiques et des puissants. Les rois, les reines, bien sûr, mais les puissants. Donc cette broderie qui aujourd'hui encore existe en Inde, quand on parle de broderie d'Inde, c'est ça, c'est le berceau de la broderie de fil d'or et de métal or. 14e siècle à peu près, M. Marco Polo se promène aussi et va en Chine et revient avec la broderie de soie. La broderie de soie chinoise est absolument exceptionnelle parce qu'elle se regarde autant à l'endroit qu'à l'envers, elle doit être aussi belle, elle est fine, diaboliquement fine, avec, comment dirais-je, ça peut être un cheveu en réalité. Ça s'appelle chez nous de la peinture à l'aiguille et elle a été introduite donc en France à ce moment-là. Et donc du coup la France se trouve être le réceptacle d'influence mondiale d'un monde connu, puisqu'à l'époque la France était quand même, je vous concède que ça a beaucoup changé, le centre de ce monde culturel et comment dirais-je, plutôt intellectuel. Voilà. Donc les rois vont commander des broderies avec les vêtements et la broderie va s'installer mais très fortement en France et va être une broderie mixte, ce qui est très rare. On a peu de cas de cela dans d'autres pays. Alors, bon, l'histoire de, vous savez que on dit tout le monde que, comment dirais-je, Charles Frédéric Worth, c'est le premier grand couturier parce qu'il était le premier à faire une proposition créative. Alors qu'autrefois, c'était justement ceux qui commandaient, qui disaient je veux ça, je veux un ruban, je veux ceci, je veux cela. Moi, j'aime bien dire que c'est quand même Rose Bertin qui a quand même ouvert l'histoire, même si c'est pas complètement vrai. Donc voilà, je vais juste vous dire cette petite histoire-là. À l'époque, le brodeur Michonnet est un des grands brodeurs de Charles Frédéric Worth. Alors Michonnet, un nom qui vous soirée chez Fedot, c'est le début de l'histoire de la maison Le Sage. Car en 1924, un petit saut après, les parents de Monsieur Le Sage, c'est-à-dire Albert et Marie-Louise Le Sage, vont acheter ce brodeur, Michonnet, qui avait quand même un âge tout à fait respectable. La broderie conserve, hein, parce qu'il y a des gens dans la broderie qui ont travaillé jusqu'à plus de 102 ans, c'est vous dire. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier. Et oh, j'ai encore un peu de marge. Et donc, du coup, Albert Le Sage, qui était acheteur pour Marshall et Fields à Chicago, était marié avec Marie-Louise, et Marie-Louise était conceptrice de broderie, mais chez Madeleine Vionnet. Ce qui faisait que c'était génial, parce que elle travaillait pour Vionnet, son mari s'occupait de Le Sage, crac, les broderies tout de suite chez Madeleine Vionnet, évidemment. C'est exactement ce qui va se passer. Ensuite, oui, alors il y a une petite anecdote, elle avait 1200 employés quand même avenue Montel, ils avaient même créé une crèche, elle était extrêmement progressiste. Elle avait un souci des gens qui travaillaient dans sa maison qui était absolument exceptionnel pour l'époque. Femme très moderne, et comme vous le savez, on dit qu'elle a inventé le biais, le stretch, parce qu'elle mettait le tissu dans le biais qui faisait que les vêtements étaient extrêmement moulants, peut-être pas, mais souples. C'était une femme qui travaillait surtout sur la matière, elle n'était pas sur le motif. Et quand nous regardons les broderies, parce que je ne vous parle de tous ces gens-là, mais évidemment, il y a plein de broderies de ces gens-là, de ce créateur, chez Le Sage. On en a quand même 80 000 archives. Donc, l'intérêt de Madeleine Vionnet, elle a créé deux techniques pour la broderie. Le vermicelle carré. Le vermicelle, c'est une technique au crochet qui se fait sur l'envers du tissu et qui, logiquement, fait des petits serpentins et qui forme une sorte de granité sur un tissu. Elle a eu envie de faire, au lieu de faire un petit serpentin tout rond, elle voulait des petits carrés, comme des grecs, si vous voulez. Alors, c'est très subtil. Mais quand on a l'œil, ça ne fait pas du tout le même rendu, ça je puis vous le dire. Elle a été aussi l'initiatrice d'une broderie que je n'ai pas en photo, mais qui est chez nous, si un jour vous venez nous voir. Imaginez un tissu avec des fleurs. Tout est rose, mais dans des dégradés de rose. Il n'y a que le fil qui change. Les perles sont toutes de cristal et d'argent. C'est le fil qui brode les perles qui fait le changement de couleur, donc les motifs des fleurs. C'est juste absolument sublime. Malheureusement, l'œil d'aujourd'hui ne perçoit pas cette utilité pour bon nombre de personnes, je le regrette. Mais le fait est que c'était absolument sublime. Donc Madeleine Vionnet s'intéresse plutôt à la matière plus qu'au motif. Elsa Schiaparelli, rien à voir en même temps, même période. La maison Le Sage travaille pour les deux. Elsa Schiaparelli, la vie des surréalistes, fait bon nombre de motifs inspirés du zodiaque, de le cirque, enfin, tous les thèmes qui ont été pour elle, elle était très très superstitieuse, donc pour elle, les gris-gris et le zodiaque, c'était très important. On a des choses incroyables, des trompe-l'œil, des broderies de miroir, on croit que c'est un tableau, enfin oui, un cadre Louis XV, en fin de compte, c'est que des petits miroirs et des perles et des paillettes, mais ça fonctionne très bien, parce que, juste une petite parenthèse, les brodeurs sont de grands illusionnistes, ils vous font croire plein de choses qui n'existent absolument pas, parce que trois paillettes de cristal, ça vous fait un reflet de soleil sur un lac, vous voyez, mais on y arrive très bien, tout le monde y croit. Et là aussi, avec Elsa Schiaparelli, c'était génial, parce que l'illusion allié à le surréalisme, ça donne des broderies absolument éblouissantes. Et d'une fraîcheur qui est absolument aussi étonnante quand on voit la qualité des matières de l'époque. Hélas, je ne veux pas avoir l'air d'être un vieux, mais aujourd'hui, les qualités, ce n'est pas pareil. Voilà, ça devient une dépréciation de la qualité de la matière qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Vous imaginez des broderies entièrement faites en tulle de soie qui n'ont pas bougé. Aujourd'hui, la longévité d'un tulle de soie, je ne suis pas certain que ce soit aussi long, malheureusement. Surtout quand il y a du poids. Alors, l'histoire, donc, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait Marie-Louise et Albert, et François le Sage, qui nous a quittés il y a 5 ans, déjà, le fils donc de Marie-Louise et Albert, part aux États-Unis pour essayer de, on va dire, développer sa propre activité de brodeur, mais à Hollywood. Finalement, son père ne se sent pas très bien. Enfin bref, tout seul à gérer une maison, ça c'est dans les années 50, un petit peu avant, parce que son père décède en 49. Ils lui disent de revenir pour prendre les rênes de la maison Le Sage. Alors là, c'est un grand tournant pour la maison Le Sage, parce que de brodeur connu, bien sûr, mais pas plus que ça, il va devenir un brodeur archi-connu. Et ça vient de la personnalité de François Le Sage. Alors au début, je ne croyais pas que ça a été facile, au contraire, les couturiers de l'époque, les Balenciaga, les Pierre Balmain, tout ça, vous êtes bien gentil, mon petit monsieur Le Sage, mais j'aimerais bien voir votre mère, ou tout au moins, prouvez-nous que vous êtes quand même plus extraordinaire que votre maman, qui était une grande créatrice de broderie. Il lui faudra plusieurs années pour y parvenir, et le grand moment de gloire de François Le Sage, c'est d'avoir pu créer une relation extraordinaire avec Yves Saint-Laurent. Alors, on doit voir un peu plus loin, je crois. Alors, avant cela, il y a un film. Est-ce que ça marche ?
Un film qui nous montrait Monsieur Le Sage avant qu'il nous quitte, parce que, pour ceux qui l'ont connu, c'est un extraordinaire monsieur. Mais c'est pas grave.
Et qui montrait comment on travaille dans la maison, entre la conception, le dessin, et la broderie elle-même.
Ça pour une autre fois.
Alors donc là, vous voyez M. Givenchy, qui a été un des grands clients, enfin clients, créateurs, demandeurs de broderie de la maison Le Sage. Et surtout, voilà, M. Saint-Laurent. Ils se sont rencontrés quand Yves Saint-Laurent était chez Dior. Non, je crois pas.
C'est un portable ?
Oui, ils se sont rencontrés chez Dior et ensuite ils ne se sont pas quittés, entre guillemets. Il a même fait des broderies quand il était rue Spontini, au temps où M. Saint-Laurent n'avait pas de grands moyens. C'est une collaboration de 44 années sans interruption, ce qui est assez notable. Et voilà, alors là, la maison Le Sage, surtout François Le Sage, acquiert pour sa maison un statut, j'allais vous dire, indéboulonnable, parce qu'il a dit deux choses qui n'étaient pas faciles à l'époque. Là, je vous parle de ça dans les années finalement 70, 80, 90. Le talent, bien évidemment, mais surtout l'art de la communication. Si on parle même des années pas si lointaines, je dis même 1990, les maisons de couture ne souhaitaient pas qu'on communique sur les gens qui travaillaient pour eux extérieurs à la maison. Il y avait un silence qui n'était pas du tout... qui était établi, on va dire. Un brodeur ou un façonnier n'avait pas à dire « je travaille pour un tel et un tel ». François Le Sage a quand même le culot de dire « moi je vais le dire, moi je travaille pour un tel et un tel ». Il s'est mis en danger, très franchement. Mais finalement, ça lui a été... ça a été pour lui, au contraire, sur la postérité, un atout incroyable, parce qu'au travers du nom de Le Sage, on a parlé de la broderie. Car ne croyez pas qu'à l'époque, il n'y avait que Le Sage comme brodeur. Mais comme il était plus connu parce qu'on parlait de lui et qu'il parlait de lui-même, du coup, on parlait de la broderie. Donc ça, c'était quand même un grand, grand, grand talent qu'il a eu. Au-delà du fait que, alors, justement, avec Saint-Laurent, tous ces broderies inspirées des œuvres ou de Van Gogh ou de Braque ont fait le tour du monde. Il y a quand même dans les deux tailleurs que vous voyez là le tournesol et l'iris, plus de 30 à 40 matières différentes pour faire cette broderie, sans compter la peinture faite par-dessus avec une peinture textile qui faisait des rechampis, des ombres et lumières. Alors celui d'après, moi j'adore celui-ci, on a d'ailleurs cet échantillon chez nous. Monsieur Saint-Laurent, la légende dit ça, mais c'est pas que la légende. En réalité, il appelle Monsieur Saint-Laurent, Monsieur Le Sage, pour venir le matin chez lui, dans son bureau. Et il lui dit, écoutez, Monsieur Le Sage, voilà, regardez la lune, je voudrais que vous me fassiez une broderie qui soit le reflet du ciel de Paris, dans le miroir de mon bureau, au travers des pampilles de mon lustre de cristal. Sublime, non? Just do it. Et donc, du coup, ça, voilà. François Le Sage propose ça, donc toutes les choses dorées, vous voyez, les volutes, ben, ça représente le cadre du miroir qu'il y avait chez Saint-Laurent. Le bleu, c'est le ciel de Paris. Les gouttelettes de cristal, c'est les pampilles du lustre. Et je sais qu'il a. Voilà, c'est une maison sublime, une broderie que j'adore particulièrement, qui s'appelle Hommage à ma maison. Alors, Chanel, j'aime dire Chanel, vous savez que la maison de Le Sage appartient à Chanel, mais Le Sage a commencé à broder pour Chanel à partir de l'arrivée de Monsieur Lagerfeld, en 1983, oui c'est ça. Pourquoi? Parce que Mademoiselle Chanel ne voulait pas qu'il y ait des fournisseurs qui travaille pour elle, qui travaille pour d'autres maisons, particulièrement Elsa Schiaparelli. Elle se détestait des ennemis mortels. Évidemment, elles étaient toutes les deux dans une même, on va dire, mouvance intellectuelle surréaliste, deux femmes extraordinaires. Bon, c'était une guerre affreuse. Alors, petite digression pour une autre maison, je ne devrais pas, mais je le fais quand même, la maison Hurel, où j'étais 15 ans avant directeur artistique. C'est pas forcément par hasard si je suis maintenant chez Le Sage, parce que j'ai dans ma tête un kaléidoscope, même un puzzle de différentes broderies. Dans mon cursus, j'ai commencé chez Vermont, qui a été le brodeur des années Cardin, Paco Rabanne, Courrèges. Donc ça, les archives, je les ai vues chez Vermont. Ensuite, j'ai été 15 ans chez Hurel, et Hurel, voilà où je veux en venir, était le brodeur de Mademoiselle Chanel depuis 1921. Et chez Hurel, qui est un brodeur indépendant, il y a les archives de Chanel de 1921 à 1983, grosso modo. Et quand j'arrive chez Le Sage, j'ai les broderies, les archives de 83 à aujourd'hui. Donc finalement, dans ma tête, il y a quelque part l'histoire complète des broderies pour Chanel. Alors, une histoire quand même, parce que j'espère que j'aurai le temps. Pourquoi Hurel a été le brodeur de Chanel? C'est absolument magnifique comme histoire. Parce que Mademoiselle Chanel était, avec comme maman, elle l'aime beaucoup, mais enfin, la période dont il est question, elle était la maîtresse du grand-duc Dimitri, le neveu du tsar Nicolas II. Sa sœur, Maria Pavlovna Romanov, avait créé l'atelier le plus snob de la planète qui puisse exister, parce qu'il y avait des duchesses et des archiduchesses qui étaient parties de Russie avec Octobre Rouge en 17 et s'était réfugiée en France. Donc elle savait faire des duchesses, bien sûr, mais savait broder. Donc elle faisait des broderies. Et un jour, certainement, en confession sur l'oreiller avec Mademoiselle Chanel, il dit, ma sœur a fait des broderies. Montrez-moi donc ça. Et du coup, commence une collaboration entre cette archiduchesse et Mademoiselle Chanel. Bon, les choses ont vite se gâter, je vais vous dire, même sur l'oreiller d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'arrête, les broderies avec l'archiduchesse, et que la maison Hurel, qui est le grand brodeur aussi de l'époque, de Mademoiselle Chanel, va travailler avec sa archiduchesse pour l'aider à pouvoir produire les créations qu'avait fait cette jeune personne pour Coco Chanel, et va les produire, parce qu'à l'époque, les prêt-à-porter n'existant pas, ben ça se multipliait. Bon, l'archiduchesse donne son fonds d'archives qui, de vous à moi, il y a des broderies de Léon Baxte, de la cour du tsar Nicolas II, qui sont chez Hurel, qui sont juste à pleurer de beauté. Et elle s'en va. Elle a fini sa vie en écrivant des livres sur comment élever les barzoïs, ce qui est absolument fondamental. Alors, donc, Chanel, on commence à travailler, le sage commence à travailler avec Chanel vraiment grâce à Karl, qui a vraiment eu envie de ça, et qui nous rend vraiment un grand amour de ce métier, de ces métiers, puisque vous savez que la maison Chanel a acheté bon nombre de métiers d'art. C'est une affaire économique, mais c'est une affaire de cœur aussi. Alors, la petite robe que vous voyez, je crois, oui, c'est la collection Dallas. On s'était amusé aux cow-boys et aux Indiens. Alors, quelques silhouettes emblématiques. La première, c'est de la porcelaine, inspirée des porcelaines de Chine, Moselle Chanel. Le deuxième, le Coromandel, ce sont les paravents. La troisième, c'est la collection Cuba, c'est récente, où c'était des boîtes de cigares brodées avec des paillettes et des perles. Et le dernier, c'est un tailleur de la haute couture entièrement réalisé en imprimante 3D, rebrodé de perles et de paillettes. Christian Lacroix, une grande histoire aussi, parce que Christian Lacroix a été le filleul de monsieur Le Sage. Il avait énormément d'affection pour lui et il l'a soutenu jusqu'à la fin. Voilà, avec le premier modèle qu'il lui a fait, c'est le fameux cœur rouge qui a été son fétiche de première collection. Il y avait Marie Cézanne, c'était toute une époque. Dior, bien sûr Dior, du temps de Monsieur Dior, du temps de John Galliano, où là il y a eu énormément de broderies de fête parce que John adorait les broderies de Monsieur Le Sage. Et d'ailleurs celle du milieu, vous voyez une sorte de squelette là. C'est inspiré du... Comment on appelle ça, le truc de la Muerta, là, le carnaval mexicain. Et c'est fait en papier, les petits papiers de bonbons, vous savez, plastique doré, machin. Alors, tout l'atelier mangeait des bonbons. C'était quelque chose. D'ailleurs, on avait eu la même chose. Enfin, moi, j'y étais pas. Hein. Mais du temps de Schiaparelli, où il y avait des broderies avec des moules, vous imaginez, on mangeait des moules. Après, il y a des bonbons. Enfin, bon, on s'amuse beaucoup. Tant que c'est comestible, ça va. Alors, Nicole Kidman qui met cette ravissante robe créée par Ralph Simmons. Finalement, c'est deux broderies l'une sur l'autre. Au milieu, c'est pour montrer l'évolution. Non, à droite, c'est comment elle s'appelle, Maria Grazia qui vient de chez Valentino. Petite histoire amusante, Jean-Paul Gaultier. La robe de gauche, oui, pour vous, la panthère, ça a fait un scandale. Alors, un scandale de chez scandale. Parce que les ligues de défense des animaux se sont insurgées sur le fait que la maison Jean-Paul Gaultier puisse faire puisse mettre une panthère sur le vêtement. Juste la différence que vous n'avez pas saisi, c'est vous dire que c'est saisissant de vérité, ça n'est fait que de perdre les petits tubes. Il n'y a pas un millimètre de fourrure là-dedans. Ça pèse un âne mort, selon on veut le dire. C'est extraordinaire. La deuxième, ce sont des éventails qui sont totalement faux. Il y en a, je crois, 20 éventails faits spécialement, tout en perles, en paillettes. Rien n'est vrai. Et la dernière, on croit que c'est du lainage, du tapis. Il n'y a que l'écharpe qui est en véritable laine et fourrure, enfin, au tapis. Mais le reste, ce ne sont que des rubans et des perles. Alors, quand vous voyez des robes comme ça, par exemple la panthère, c'est pas juste 3 heures, 10, hein, c'est plus de 1000 heures. On doit faire ça en très peu de temps d'ailleurs. Valentino, c'est d'un raffinement sans nom avec Pier Paolo, et c'était aussi avec Maria Grazia. Au milieu, la robe est inspirée du paradis de Cranach. Alors là, du coup, ça c'est une technique de peinture à l'aiguille chinoise, dont je vous parlais au début dans l'histoire de la broderie. Elle est aussi belle à l'endroit qu'à l'envers, et on y a ajouté des incrustations de plumes, parce que ça ne suffisait pas. Les nouvelles générations extrêmement importantes pour nous, que ce soit Alexandre Routier, Bouchra Jarrard ou d'autres, c'est notre avenir qui se joue, parce que sans connaissance et sans empathie pour nos métiers, ben, ça ne continuera pas. Donc très important, et c'est vraiment quand les créateurs nouveaux viennent, ils découvrent un univers qu'ils ne soupçonnent bien souvent pas. Et là, c'est, c'est un petit garçon ou une petite fille qui rentre dans un magasin de jouets au moment de Noël, c'est juste extraordinaire, quoi. On voit les yeux qui pétillent, et nous aussi avec. Et l'histoire d'alors, Monsieur Le Sage, ben, je vous en ai parlé, un immense monsieur, et en... en décembre, alors ça c'est ma tête, vous m'avez à peu près reconnu, j'arrive dans des conditions un peu compliquées, parce que Monsieur Le Sage souhaitait que je lui succède, puisque c'était un vœu de la maison Chanel, et j'étais même très étonné qu'on me demande, parce que je n'ai jamais travaillé pour ni avec Monsieur Le Sage, bien évidemment je le connaissais, c'était un maître pour nous tous dans la broderie, mais je me flatte d'avoir pu être son ami pendant les, on va dire, les 10 dernières années de sa vie, et c'était un homme absolument exceptionnel, mais je ne m'imaginais vraiment pas être dans son sillage. Le fait est que ça s'est passé comme ça, et il nous a quittés le jour même de mon arrivée. Le 1er décembre, à 3h du matin, il décédait, et j'arrivais à 9h30 au travail. Bon, écoutez, voilà, signe, mais ce n'était pas facile. Alors, la suite. Ça marche plus le bouton. Ah, voilà. Alors, puisque c'est le sujet, les archives. Vous voyez la photo des archives. Les 80 000 archives que nous avons sont là. Quand on parle d'archives chez Le Sage, c'est toute création faite jusque maintenant. C'est-à-dire, là, je viens de la finir, pof, elle est entreposée, ça devient une archive. Nous n'avons pas une gestion patrimoniale ou muséale, plus exactement, de la broderie. C'est une gestion dynamique. Les broderies peuvent être consultées par nous ou les créateurs qui viennent et nous servent par moments ou d'inspiration ou une matière que l'on recherche, que sais-je encore. En tous les cas, c'est comme un livre d'images qu'on consulte en fin de compte. Nous nous interdisons totalement de refaire à l'identique toute broderie qui a déjà été brodée. Et en réalité, dans l'histoire moderne, les broderies qui sont réalisées, par exemple, aujourd'hui, ne seront pas montrées, je ne dis même pas copiées ou interprétées, montrées avant 10 ans. Ça fait partie de notre, comment dirais-je, éthique, si vous voulez. Donc là, on en était à 75 000 en 1981. Les tonnes de matériaux dans le sous-sol, on a quand même des sous-sols assez fascinants. Je peux vous dire que malgré nos 70 tonnes, il n'y a jamais ce qu'il faut. Hein. Moi, je veux toujours ce qui n'existe pas. Ou tout au moins, les créateurs me demandent des choses que je n'arrive pas à trouver, comme vous voulez. Mais cela étant, c'est extraordinaire. Quand on se perd dans les arts, dans les stocks. C'est des salles. On a 3 salles de la moitié de cette salle pleine avec des armoires qui coulissent. Mais Monsieur Cocri tout à l'heure vous parlera de choses beaucoup plus fascinantes pour les archives Chanel, parce que là c'est Star Trek chez nous. Hein, nous c'est encore le Moyen-Âge. Hein. Alors nous avons un département tweed, je vous en parle pas, il a été créé par monsieur Le Sage dans les années 90 au moment où il y a eu des crises économiques qui ont fait que crise du Golfe aussi qui a fait qu'il y a eu une baisse de comment dirais-je de commandes dans nos maisons, et monsieur Le Sage qui ne voulait surtout pas congédier ses employés, souhaitait les garder parce qu'il était tout à fait conscient du savoir-faire qu'elles avaient, de la richesse qu'elles avaient entre leurs mains. Donc il a créé d'un côté le département tweed qui marche très bien pour Chanel, là c'était un film que vous n'aurez pas, et l'école, donc la transmission du savoir, une chose absolument indispensable. Nous avons 3000, je crois maintenant, un peu plus étudiants depuis que ça a été ouvert, c'est pas si mal. Nous avons reçu il n'y a pas si longtemps l'accréditation, je ne vous dirai pas le nom parce que je ne suis pas très spécialiste, mais de l'éducation nationale qui fait que ce que nous faisons est reconnu. Ça, c'est important. Ça fonctionne sur des modules et nous avons une bonne partie des étudiants qui viennent d'Asie, il faut le reconnaître, le Japon particulièrement. Et le reste, c'est un métissage de tout pays, France confondue. Ce n'est pas juste pour les dames un peu oisives et très riches qui veulent connaître la broderie. C'est pour des gens qui aiment profondément la broderie, qui veulent la connaître. Et alors du coup, nous avons des jeunes, quelquefois, qui viennent dans cette école et qui ne vont pas forcément travailler chez nous, mais qui vont travailler dans des maisons de luxe et qui vont être l'interface entre les studios de création et les fournisseurs. Ce qui montre une évolution aussi de la mission de notre école. Bon, après, c'est fini.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci. passionnante. On vous propose des questions du public.
Ah bah allons-y.
Qui vous commenterait?
Je pense, bonjour, je ne pense pas que vous l'ayez spécifié.
Oui, bonjour.
Sur les 75 000 échantillons, quelle est la part de création de SAGE et d'archives, c'est-à-dire inspiration de documents qui viennent de... Merci.
Alors,
est-ce que vous différenciez en plus ces deux?
Non, non. Elles sont rangées par ordre chronologique, par année. En réalité, chaque boîte correspond à une saison. Quelquefois, pour une saison, il y a plusieurs boîtes, c'est-à-dire printemps-été 1965, par exemple. Nous avons une, deux, trois boîtes. Dedans sont mélangées toutes les broderies, sauf celles qui ont fait modèle. C'est-à-dire qu'un couturier a choisi pour faire un modèle, ça fait partie d'autres boîtes qui sont marquées pour la même année. Printemps-été 1965, modèle fait. Et donc ça, c'est archivé dans un autre endroit. Et... dans cette boîte, il y a le sous-ensemble Dior, le sous-ensemble Schiaparelli, ce que vous voulez, Balenciaga, etc., etc. Alors, concernant la création, c'est plus touchy votre question, parce que vous savez très bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, la création, elle appartient finalement à la maison qui a demandé qui a passé la commande et qui l'a honoré. Donc en clair, quand on fait une création pour Dior et que ça devient du Dior, là c'est du Dior. Mais les broderies qui ne sont pas choisies font partie des créations de la maison de Le Sage. Même si un document nous a servi de base, ça appartient au fond de Le Sage. Et Le Sage est tout à fait libre de les présenter, exception faite, enfin, avec la règle que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne copiait jamais littéralement une broderie, et quand elle avait fait modèle, on ne la copie pas du tout, tout simplement. Sauf si la maison qui l'a commandée, ça nous est arrivé dernièrement par exemple pour Schiaparelli, nous demande de refaire cette broderie ou de la réinterpréter. C'est quand même un peu normal, ça. Voilà. Mais on ne va pas s'amuser à faire une broderie d'ailleurs chez Saint-Laurent ou un autre. Bien qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui nous envoient des documents. Tiens, c'est très étrange. On voit par exemple une copie exacte de Saint-Laurent, par exemple les écailles de poisson de Saint-Laurent, ils ont juste pas pigé que c'était du Saint-Laurent et qu'on la copie pas. Mais bon. C'est vrai pour les jeunes, malheureusement.
Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais deux questions qui sont reliées en fait. La première, c'est. Vous aviez dit qu'il n'y avait pas de gestion muséale de vos collections. Est-ce que vous avez cependant une sorte de base de données qui permet de consulter les matières, enfin chaque échantillon en voyant les matières, etc. Est-ce que ce sont plus des fiches produits ou est-ce que ce sont aussi des fiches qui retracent un peu une histoire, des anecdotes ou le processus créatif, est-ce qu'il y a finalement une documentation un petit peu plus large que les caractéristiques techniques? Et la deuxième question, il y a effectivement, accueillez-vous des chercheurs ou en tout cas des gens qui s'intéressent à l'histoire de la broderie ou de la mode de façon générale? Merci.
Alors, pour la première question, alors, je vais peut-être vous faire rêver, vous décevoir, il n'y a rien de tout ça. Il y a les archives qui sont mises dans les boîtes et elles dorment comme des belles endormies, jusqu'au moment où on ouvre la boîte et qu'on la présente. Alors, quand même, cependant, la maison Chanel, qui est notre propriétaire, a quand même fait en sorte que ce patrimoine ne soit pas s'envole. Donc tout a été numérisé, mais on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas aussi parce qu'à partir du moment où on va diffuser auprès de nos clients les photos, la numérisation de cela, de ces archives qui sont vraiment précieuses et qui est notre, entre guillemets, fonds de commerce, si vous voulez, je crains fort qu'à un moment, d'ailleurs ça existe déjà, ce soit une déperdition de valeur. Et on part du principe que tout le monde est tout à fait honnête, nous sommes d'accord. Vous avez compris la suite. Donc, nous n'avons pas, nous ne donnons pas de version numérisée de nos archives, même si elles existent. Deuxièmement, D'ailleurs, dans cette question, parce que vous avez dit autre chose qui était tout à fait passionnant. Oui, les histoires, les anecdotes, tout ça, et ben, c'est dans ma tête et c'est dans celle des collaborateurs, de certains collaborateurs de la maison qui ont collaboré depuis 30 ans avec M. Lesage et qui ont les anecdotes. En revanche, il y a aussi un livre sur M. Lesage qui n'est plus du tout, enfin sur les broderies de Lesage, qui n'est plus malheureusement dans le commerce, mais peut-être qu'un jour il y en aura un nouveau. Qui trace les anecdotes que je vous ai racontées avec Saint-Laurent, la veste du reflet du ciel de Paris. Il y a aujourd'hui, pas ce que vous dites, j'aimerais qu'il y ait, mais il y a aussi un problème et de temps et de budget. Vous savez, nous ne sommes pas milliardaires. Si les artisans étaient milliardaires, ça se saurait, il y aurait plus d'engagement. Hein. Et là, c'est quand même des coûts très forts de pouvoir répertorier, annoter tout. Voilà. Alors, on arrive à votre deuxième question qui va dedans. Est-ce qu'on accueille des chercheurs ou des gens passionnés par la broderie ? Bien sûr qu'on en accueille, mais on n'en embauche pas parce qu'on ne peut pas les embaucher. Moi, j'adorerais, très, très, très franchement, puisque ces broderies, elles changent de place toute la journée. Le matin, il y a, Pierre Balmain, enfin la maison de Balmain, il y a un jeune qui, Olivier Roustin, qui fait des broderies, il n'en a jamais fait chez Lesage. Tout à coup, il a réalisé qu'il y avait une maison Lesage et il est fou de joie de découvrir ça. Il est venu, là je vous assure, c'était quelque chose, la pagaille dans les archives, parce qu'il n'a jamais vu des choses aussi extraordinaires, nous dit-il, parce qu'il faisait que des broderies, mais d'une autre chose. Et donc du coup, voilà, et l'après-midi, nous avons droit à la maison Valentino qui vient. Donc il s'agit de re-ranger tout vite fait, de ressortir tout. Alors voilà, ce sont pas des broderies volantes, mais c'est des broderies qui bougent beaucoup en tous les cas. Mais voilà, j'aimerais bien, c'est vrai qu'il y ait des gens, des chercheurs qui soient attitrés à la maison, mais pour le moment c'est impossible.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va... Vous avez une dernière question, et après...
Moi, je rebondis sur la première question. Je voulais savoir si vous aviez aussi des broderies pour inspiration, en fait, historiques, par exemple, des broderies copes ou je ne sais quoi, enfin des
documents. Ah oui, des très très anciennes.
Ou non. 18e même.
Alors, oui, on
a. Est-ce que, en fait, voilà, au-delà, enfin, voilà, vous avez des documents aussi archivés
Vous savez, alors, les broderies qu'on a les plus anciennes sont 1860. J'exclus de cela, on doit avoir une dizaine de gilets brodés 18e. Ils ne font pas partie de l'histoire de la maison. Le Sage n'existait pas, puisqu'elle a commencé avec Michonnet. Cependant, ce sont des acquisitions ou des dons qui ont été faits au fil du temps. Mais là, en tant qu'archive maison, fait par la maison, ça commence en 1860. Et là, c'est quand même... Alors, si c'est historique, oui, ça l'est. Parce qu'il y a des choses qui s'est marquées, c'est de Chaffret des Rebois, c'était pour la comtesse machin ou la duchesse bidule.
Non, je pensais juste pour vous nourrir, ou même des broderies d'autres pays, en fait, est-ce qu'il y a aussi des... On sait aussi aujourd'hui que beaucoup de maisons, en fait, aussi s'inspirent de choses qui viennent d'ailleurs, ou d'autres époques. Est-ce que vous avez aussi des processus comme ça pour nourrir votre création, en fait, des inspirations, en fait?
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je vais faire demain. Et c'est la même chose concernant la création pure. Vous allez peut-être me trouver décevant. Bon, les archives, moi, je les adore. Hein. Mais moi, je les vois mieux, c'est. J'ai juste envie de commencer un rêve qui n'a jamais existé. Et du coup, quand Karl nous a demandé, il y a quelques années, de faire des broderies qui étaient inimaginables du temps de Mademoiselle Chanel, ça a été la naissance du tailleur en imprimante 3D avec les broderies de cristal dessus. Ça, c'est super excitant. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que la broderie, si elle existe jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle a toujours été contemporaine de son époque. Aujourd'hui, on est devant des défis technologiques qui sont incroyables, aussi esthétiquement. Et il faut associer, à mon sens, la transmission du savoir et l'innovation qui est absolument indispensable. Autrement, pour les générations de créateurs qui arrivent, on passe à côté de la plaque. Donc, on voit la réaction qu'ils ont quand ils voient les archives, ils disent « Ah, c'est juste génial !» Ça leur fait un peu peur parce que ça fait musée. Dès qu'on leur sort deux petites machines choses plus modernes avec, ça, ils ne savent déjà mieux, on respire et on passe sur une création. Donc, à titre personnel, ça n'engage que moi. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment des choses qui n'existent pas. Ou tout au moins, qui, le moins possible, avec une référence trop histoire, même si personnellement j'adore l'histoire, je ne cesse de lire, enfin, c'est peut-être aussi ça qui me permet de me sentir libre, c'est d'avoir une forme de connaissance et de pouvoir m'en détacher. Et dans la création, je crois que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je ne vous aurais pas dit la même chose il y a 10 ans, voyez-vous.
Merci.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais vous accueillir, Géraldine, pour parler de l'archive Chloé. Alors, vous avez créé le service département en 2012, et c'était à l'occasion des 60 ans de la maison. Donc aujourd'hui, on va en savoir plus sur vos collections et la constitution de vos archives. Merci beaucoup, vous nous avez amené les documents.
Oui.
Pour présenter, je vous laisse en dire deux, trois mots.
Bah, je vais les présenter
en parlant. C'est parfait. On met le PowerPoint et c'est bon.
Donc, bonjour à toutes et à tous.
Juste
merci.
Donc
je m'assois ici.
Et pour défiler les diapos, en fait, cette petite plage.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravie de venir vous parler du patrimoine de la maison Chloé. Donc, pour commencer, je vais juste vous faire un petit rappel en fait historique sur l'origine de la maison. La maison a été créée en 1952 par une Égyptienne, Gaby Aguillon, qui avait une fascination en fait, pour la France et l'élégance des Parisiennes et a voulu venir aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand elle est arrivée, en fait, malheureusement, elle a été extrêmement déçue que les Parisiennes ne soient pas aussi élégantes qu'elle les a imaginées depuis son Égypte natale. Il faut dire qu'on est aussi quand même après-guerre et qu'il y a encore des répercussions dans la société de l'époque, et aussi qu'elles ne sont pas aussi émancipées aussi qu'elles les a rêvées. Et assez vite, elle est d'un milieu plutôt aisé, son mari vient d'une très riche famille, et donc elle est cliente elle-même de la haute couture, mais assez vite, elle a envie de créer son activité, pas pour l'argent, dit-elle, mais pour le plaisir d'aboutir quelque chose par elle-même. Et c'est comme ça qu'elle a l'idée de créer en fait quelques modèles inspirés en fait de ceux qui étaient portés alors dans les sporting clubs d'Égypte, des modèles simples et frais qui, sans être des modèles du soir, n'étaient pas le tout venant, selon ses propres mots. Et donc elle donne ainsi naissance au prêt-à-porter de luxe en engageant quelques couturières qui vont réaliser dans sa chambre de bonne des modèles qu'elle va créer et qu'elle va aller proposer à des boutiques, en leur imposant à ce moment-là de absolument conserver le nom de sa griffe qu'elle crée alors. Et là, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Oui, je dis ça, j'insiste sur ce détail parce qu'elle-même m'a insisté quand je l'ai interviewée là-dessus. Parce que les boutiques avaient alors l'habitude de découdre les modèles qu'on leur proposait pour coudre la griffe de la boutique elle-même, qui allait les vendre. Et ce qui est intéressant aussi avec Gaby, c'est qu'elle choisit de ne pas incarner en fait son entreprise, mais elle emprunte son prénom à une de ses amies, Chloé Huysmans. Et sans doute pour plusieurs raisons. À la fois, sa famille voit d'un assez mauvais œil qu'elle va y travailler. Il y a déjà aussi une Gabrielle, très célèbre dans l'histoire de la mode. Mais c'est un choix qui est très intéressant. Et elle aime aussi beaucoup la rondeur des lettres de Chloé et leur fraîcheur. Et je trouve que c'est un choix qui est intéressant parce qu'elle n'a jamais voulu... finalement aussi communiquer sur elle-même. Elle s'est jamais fait photographier. C'est les premières choses qu'elle m'a dit, c'est cette phrase qui est assez étonnante en fait pour la fondatrice d'une maison de mode. Je n'aime pas la publicité et qui est assez en rupture en fait quand même avec beaucoup de maisons. Donc c'est un héritage en fait que nous on situe plus aujourd'hui sur l'attitude et c'est ce que la maison aussi sur laquelle on oriente pas mal la communication. C'est cette attitude en fait, d'une femme qui est à la fois moderne, qui est tournée vers les avant-gardes, les jeunes talents, et qui va afficher une espèce de désinvolture et de liberté nouvelle pour l'époque. Donc, autre idée assez originale, elle a l'idée de organiser son premier défilé au Café de Flore, endroit qu'elle fréquente avec son mari qui tient une galerie en fait, sur Saint-Germain-des-Prés et qui expose des peintres modernes. Et donc, elle privatise le flore et invite la presse à un petit déjeuner, ce qui est vraiment alors complètement nouveau et complètement en rupture avec ce qui se pratique alors dans les maisons de haute couture où les présentations sont assez feutrées à l'intérieur même des maisons. Et donc, on est vraiment proche là, avec une espèce de parti pris très proche de l'énergie de la rue. Les mannequins entrent dans le café, font un tour, comme si elles allaient prendre une consommation et ressortent. Donc, vraiment quelque chose de très proche de l'énergie de la rue et très moderne. Donc là, on est en 1957. Pour la collection Printemps-été 1958. Là, la presse est enchantée en fait par cette présentation, mais Maïmé Arnaudin du Jardin des Modes va alors voir Gabi et lui dit « Écoutez, c'est très gentil ce que vous faites, mais il manque quelque chose et je vais vous présenter un jeune talent, Gérard Pipard. » Et là, c'est très intéressant parce que Gabi en fait va comprendre qu'elle peut pas tout faire elle-même et va s'entourer en fait toute une clique de jeunes talents qui sont vraiment les pionniers du stylisme. Il va y avoir Gérard Pipard, donc qui va ensuite partir et faire toute sa carrière chez Nina Ricci pendant 30 ans, mais aussi Christiane Bailly, Michel Rosier, Maxime de la Falaise, Tan Giudicelli, qui vont en fait souvent travailler, Graziella Fontana aussi, vont travailler à plusieurs mains sur une même collection et elle va faire la direction artistique de la collection. Donc là, c'est des créations de Gérard Pipard. Ici de Maxime de la Falaise. Ça, c'est la robe préférée de Gabi Aguillon. Quand je suis arrivée, on m'a dit « Faut que tu retrouves ce modèle en brun. » Et parce que c'est le premier sold out, enfin le premier succès commercial en 1960. Et Gabi m'a expliqué, en fait, parce que pour nous, ça peut nous échapper, en fait, ce qui fait la particularité de ce modèle, mais m'a dit « Une robe comme un t-shirt, une robe aussi simple et moderne, ça n'existait pas. » Juste en 1964, arrive une nouvelle recrue, en fait, Karl Lagerfeld, avec qui elle va avoir une collaboration extraordinaire et qui va être tellement prolifique que 10 ans après son arrivée, en fait, il va rester seul aux commandes de Chloé jusqu'à son départ chez Chanel en 1983. Donc là, ici, ses premières créations, des robes en soie peintes à la main, beaucoup, qui signent vraiment une attitude bohémienne chic, du flou, beaucoup de crêpes de soie. Alors là, je vous montre aussi, c'est très satisfaisant quand on est responsable d'un service patrimoine, quand on arrive à faire le lien entre un croquis, un éditorial et une pièce en fait retrouvée dans une vente. Ce modèle aussi, qui m'est particulièrement cher, s'appelle Rachmaninoff. Donc vous voyez un détail en fait de la soie peinte à la main qui représente un espèce d'arlequin qui tient une colombine dans ses bras. Ici, en 1983, donc une grande période en fait, des années 80, où la mode emprunte à toutes les thématiques, cette collection est dédiée sur le thème de la couture, de la musique, avec un croquis qui est inspiré d'un violon. Alors ça, c'est vraiment aussi ce qui est génial dans mon travail, c'est que j'ai parfois sur les croquis les inspirations d'un violon qui était sur une page à part en fait, qui était agrafé avec d'un violon en marqueterie italien du XVIIIe siècle. Et une dernière création de Karl avant son départ pour Chanel, une dernière collection qui fait sur le thème de la couture. Et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard parce que Gabi, de ses propres mots, m'a dit ils étaient tous attirés par les sirènes de la couture. Donc le premier étant Gérard Pipard qui était parti ensuite pour Nina Ricci et sa couture. Et suite au départ de Karl, en fait, c'est très difficile pour la maison de se relever. Et moins de 2 ans après son départ, Gabi vend Chloé à Dunhill, qui deviendra le groupe qui va être ensuite racheté par Richemont. Et arrive en 1987, après une succession en fait de plusieurs directeurs de la création, donc Guy Paulin et Philippe Guy Bourget, arrive Martine Sidbon, qui crée aussi une mode assez féminine avec des inspirations du dandisme et du cabaret. Karl Lagerfeld revient en 1992, à nouveau pour 5 ans. Je pense à la suite d'un accord financier, en fait, Richemont ayant racheté sa propre maison, Karl Lagerfeld. Et il est fidèle avec encore ces très belles collections peintes aussi à la main, qui sont inspirées là d'ailleurs de fresques de l'Antiquité d'Acrotiri sur l'île de Santorin. En 1997, arrive Stella McCartney,
qui insuffle une impertinence avec celle de sa jeunesse, de ses 26 ans, avec une touche british assez pop. Donc à la fois des inspirations de lingerie féminine, on met vraiment en avant aussi toute cette complicité en fait, qui fait vraiment la saveur de la maison Chloé. Et puis donc des provocations assez fun. Naturellement lui succède son assistante Phoebe Philo à son départ en 2002 et qui crée aussi voilà, des modes assez raffinés avec notamment des créations très dans le flou avec très belle campagne d'Inès et Lino Matadine au Jardin des Tuileries. Lui succède son assistante Anna McGibbon, voilà, qui s'inspire aussi beaucoup des années 70. Et en 2012 arrive Claire Brickeller, dont vous voyez le premier modèle, son premier défilé, qui était, je trouve, une parfaite interprétation modernisée de l'héritage Chloé avec des vêtements souples. Et c'est très intéressant aussi le travail sur cette robe parce que le plissé est fait dans un premier temps et la couleur est ensuite appliquée, ce qui fait une couleur par écran et du coup ça fait des rayures vibrantes. Puisque voilà, les rayures sont dessinées par la partie du tissu qui était apparente, le reste est en réserve, l'intérieur des plis restant en réserve. Donc je suis arrivée en fait chez Chloé en 2011. Le PDG Geoffroy de la Bourdonnais est allé voir Olivier Saillard et lui a demandé s'il pouvait imaginer quelque chose pour célébrer l'anniversaire de la maison qui devait avoir lieu donc en 2012 pour célébrer donc, les 60 ans puisque Chloé a été créée en 1952. Et là, Olivier Saillard lui a dit « Mais ok, mais qu'est-ce que vous avez à exposer ?» Et il lui a répondu « Ben, rien, puisqu'il n'y avait pas d'archives à ce moment-là du tout qui avaient été constituées. » À ce moment-là, j'étais l'assistante d'Olivier Saillard, lui partait pour le musée Galliera. Il m'a présenté donc au PDG de chez Chloé. Et j'ai commencé une mission de documentaliste de 6 mois. Et donc j'ai commencé par faire ce qu'on fait en général dans les musées quand on travaille sur des expositions, c'est réunir en fait tous les éditoriaux afin d'avoir une espèce d'idée en fait, de ce qui avait été les collections année après année. Donc j'ai commencé la recherche en faisant le scanner de toutes les pages en fait, de Vogue Paris, par moi-même, en cherchant le mot Chloé partout. Et j'ai découvert en fait, des sublimes éditoriaux, en fait, vraiment des très grands noms de la photographie. Donc là, ici, vous voyez une photo de Guy Bourdin, en fait, qui date de 1956. En plus, c'est génial parce que ça coïncide aussi avec le moment où lui, jeune photographe, en fait, fait ses débuts chez Vogue. Et donc, on a un premier éditorial en fait, avec des créations Chloé à ce moment-là. Une photo aussi, donc j'ai mis quelques exemples. Donc ici, Paloma Picasso par Helmut Newton. Une photo vraiment iconique de l'histoire de la photographie de mode. Ah, parce que moi, je n'ai pas chronologique. Ici, David Bailey qui photographie Jane Shrimpton en 1963. Guy Bourdin encore en 1979. Voilà, et Patrick de Marchevier, pour vous faire un exemple plus récent. Et puis j'ai aussi racheté leur fonds à deux photographes de défilés de mode. Donc là, ça a commencé à bien documenter, mais qui avait commencé donc, pour Jean Le Suré en 1972 et Guy Marino un peu plus tard, en fait, fin des années 70. Mais de fil en aiguille, en connaissant mieux les gens dans la maison, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais quand même aller voir l'entrepôt, il y a des cartons un peu bizarres. » Et donc là, c'est la photo du grand moment où on m'a descendu ces cartons un peu bizarres. Et en fait, elles contenaient à peu près 500 pièces d'archives que j'ai pu ensuite inventorier, photographier, documenter, restaurer. Et alors qu'au début, on pensait peut-être faire une exposition photo, on s'est dit, bon, bah, génial. Donc peut-être pour cet anniversaire, on peut envisager finalement de faire une véritable exposition de mode. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à chercher un lieu d'exposition, une commissaire. On a trouvé... Ah oui, j'ai aussi, dans cet entrepôt, dans ces cartons, il y avait aussi des croquis. Voilà, c'est quand même... Donc là, je suis en train de les faire numériser. Et on est déjà à 10 000, en fait. Voilà. Et donc, arrivent, en fait, donc, les gros événements pour l'anniversaire de la maison. Donc, on se posait un peu la question, est-ce que ça va être une grosse fête? Est-ce que ça va être une édition? Est-ce que ça va être un projet digital? Donc, moi, je me suis emparée de l'exposition. Finalement, ça a été un peu tout ça. Alors, voilà l'affiche de l'exposition qui a eu lieu au Palais de Tokyo en 2012. Donc, ça, c'est un lieu, en fait, que le Palais de Tokyo a ouvert à la privatisation et que Chloé a pu investir en premier, puis ensuite elle peut accueillir d'autres maisons de mode. J'ai trouvé la commissaire aussi, Judith Clark, qui avait le énorme avantage, alors que mon projet était déjà complet, parce que je devais réunir les archives et en même temps, en fait, imaginer la production d'une exposition. Et Judith Clark avait quand même l'énorme atout d'être à la fois une commissaire et une scénographe. Donc on simplifie un petit peu aussi les interlocuteurs. Donc voici la scénographie qu'elle a créée, donc des 12 vitrines thématiques qui faisaient écho à des moments de l'histoire de Chloé, donc qui permettaient aussi de sortir d'une chronologie pure, avec des références subtiles à l'histoire de la maison. À gauche, vous avez en fait des céramiques de la brasserie libre qui avait aussi accueilli de nombreux défilés au début de la maison. Et à droite, par exemple, c'était un petit clin d'œil à la façade du palais de Tokyo avec ses bas-reliefs de chevaux qui faisaient écho à une célèbre collection avec des chevaux de Stella McCartney. Avec aussi une approche plus traditionnelle de vêtements avec les croquis en fait, qui est documenté, présenté juste en dessous. Autre projet pour cet anniversaire, une série de rééditions faites d'après les vêtements retrouvés en fait, du patrimoine, enfin, à part quand même cette robe en brun que je n'ai jamais retrouvée en réalité, en fait, qu'on a fait d'après photo, et malheureusement je me suis rendu compte d'ailleurs. Il y a peu de temps, en fait, elle était grise. Et ça, c'est le problème des photos en noir et blanc. Donc pour cette édition anniversaire, certains modèles étaient donc, en série limitée, notamment cette robe encore. C'est parce que donc les portes de nom d'encore, chaque modèle avait jusqu'en 1985 un nom chez Chloé. Et puis là, c'est très intéressant parce que finalement, on a dû. Donc c'est un projet vraiment qui devait donner de la visibilité aux maisons, qui s'est fait en partenariat avec des department stores, que j'ai dû aller convaincre un peu en VRP, donc aussi au moment où j'avais le projet d'exposition. Je voulais convaincre d'être partenaire, d'accueillir en fait nos rééditions. Et à cette occasion, il y a eu plusieurs projets événementiels liés donc au patrimoine. Et c'est ainsi que bah, donc on se retrouve avec une robe d'archives en vitrine à la boutique 17 Anne, avec encore les chevaux d'ailleurs de la façade du Palais Tokyo, puisque c'est Judith Clark, la commissaire de l'exposition du Palais Tokyo, qui a aussi signé plusieurs de ces pop-up et donc faisant vraiment écho à la prophétie d'Andy Warhol selon laquelle les grands magasins allaient se transformer en musées et les musées en grands magasins, qui se vérifie ici. Ici on est chez Barney's à New York, donc encore avec des vêtements du patrimoine en vitrine, à l'extérieur sur rue et à l'intérieur du magasin. Et ici à Corso Como à Milan pour une petite exposition sur Anna Piaggi en partenariat avec les archives du Vogue Italie. En 2013 suit l'édition d'un livre historique que vous pouvez consulter, en fait je vous ai rapporté un exemplaire, avec des textes de Sarah Mauer et une direction artistique de Marc Ascoli, donc ouvrage qui a pu voir le jour grâce à tout ce travail de recherche qui a été fait donc, par moi d'abord dans Vogue Paris, puis ensuite par des personnes que j'ai engagées pour faire la même chose dans Vogue US, Vogue UK, L'Officiel, ID, Days and Confused, Jardin des Modes, Elle, enfin, dans beaucoup de titres, pour mettre à jour donc, tout ce contenu de photographie de mode. Et puis, donc, le lancement du livre donne lieu, lui aussi, à des expositions dont le patrimoine se retrouve à assurer la production. Donc des expositions, cette fois-ci, dans nos boutiques, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'on a le droit de rien accrocher sur les murs. Et on peut faire des expositions boutiques, donc là je vous montre quelques exemples. Et puis, pour le vernissage, donc un photocall dont je suis très fière, qui est inspiré d'une photo d'un défilé de 1982. Et donc j'ai refait l'atelier, et voilà en fait les invités étaient pris en photo dans l'atelier. Voilà, un autre lancement pour le livre donc dans une boutique en Californie à Melrose Place. Donc on exploite les possibilités de la boutique de miroir. Et encore à Shin Kong Place, où là, on a exploité un espace qui était devant la boutique pour faire un livre géant et qui devait aussi permettre de faire un espace de photocall avec un livre géant pop-up avec une photo de Guy Bourdin. Donc le service patrimoine, c'est aussi un service évidemment de support en interne dans la maison, à la fois pour des prêts au studio, donc comme vous pouvez voir ici, une robe de 84 qui a servi d'inspiration pour un modèle de 2013, ou encore ici. Un service support aussi pour des historiens de mode, pour des communications historiques. Et puis, évidemment, un service qui noue des relations privilégiées avec les musées par des dons ou des prêts pour des expositions. Donc ici, vous avez l'exposition Trompe-l'œil, un accrochage aux arts décoratifs sur le thème du Trompe-l'œil. Voilà, une exposition organisée par Galliera. Une exposition sur la Grèce des origines au musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. Là, c'est plus inédit, donc avec ces fameuses robes inspirées des fresques d'Akrotiri. L'exposition dédiée à Karl Lagerfeld, mode béton, qui a eu lieu à Bonn en 2015. Voilà, donc divers prêts, je vais aller un peu plus vite. Ici, juste une exposition donc, sur Antonio Lopez. C'est aussi intéressant parce qu'à la fois, donc, Chloé prête la robe, mais aussi prête deux des aquarelles qui sont juste à côté. J'essaye maintenant aussi d'acheter en fait, des œuvres d'art en relation avec... cette histoire, ce patrimoine original, en fait, pour augmenter les collections, au-delà des collections vraiment purement issues de la maison. Voilà. Là, juste encore ces deux mêmes robes, en fait, qu'on retrouve à nouveau dans un musée au Barbican Center pour l'exposition The Vulgar, dont Judith Clark est la commissaire. Barbican Center de Londres. J'ai aussi, donc, avec tout ce travail d'archives, il y a eu un petit moment, donc je dois dire, où il y a eu comme une surexposition, en fait, et une surcommunication sur le patrimoine. Et une petite tension s'est fait sentir, alors, je ne sais pas si d'autres personnes, en fait, dans la salle peuvent parfois la voir, entre communication autour du passé et création contemporaine, qui est vraiment la ligne de mire, en fait, de l'ensemble des équipes, des maisons dans lesquelles on travaille. Et du coup, c'est quand même toujours une espèce de paradoxe, je pense que c'est aussi une tension naturelle entre un patrimoine qui vit sur le long terme et une création de mode qui est engagée sur une course de tendance éphémère qui doit se traduire par une réussite commerciale immédiate. Mais le travail effectué par le patrimoine a aussi permis au marketing de s'appuyer sur ses recherches pour finaliser un brand book, une espèce de bible qui permet de repérer les données des repères sur les pièces majeures, les thématiques des collections, et aussi la manière dont la fondatrice de la maison que j'ai interviewée a raconté l'histoire de la fondation de la maison, qui a contribué vraiment à forger une vision de marque et à lui donner des repères pour se projeter dans l'avenir. Tout ce contenu aussi m'a permis en fait, de créer une conférence sur l'histoire de la maison que je fais pour des very important customers et aussi pour les nouveaux arrivants dans la maison. C'est une conférence assez dynamique où j'essaye aussi de présenter les pièces du patrimoine pour illustrer cette histoire et où les gens peuvent découvrir le service et ses archives. Ce qui me permet aussi, en fait, parfois le service patrimoine est un peu isolé dans ses actions, en fait, de communication institutionnelle des autres départements de la maison. Et donc, ce qui me permet aussi de sensibiliser vraiment le plus grand nombre de personnes à mes actions au fur et à mesure. Une autre action que j'ai entrepris, là, enfin, que j'estime prioritaire, c'est de procéder à la valorisation financière, en fait, des collections, ce qui permettra aussi de les assurer au plus près. Et puis je pense aussi de vraiment réaliser en fait la valeur du patrimoine qui est encore en fait au sein de la maison un service récent qui a acquis là la reconnaissance du PDG. C'est pas toujours évident en fait de faire comprendre à l'ensemble en fait des directions les besoins très spécifiques en fait nécessaires au patrimoine. Voilà, et que c'est pas aussi forcément, en fait, le patrimoine ne doit pas être uniquement un outil, en fait, de communication événementielle, mais aussi une valeur à envisager vraiment sur du long terme. Donc aujourd'hui, le service a besoin de se consolider. Donc j'en parle au cas où il y a des gens dans la salle aussi qui veulent échanger avec moi sur ces sujets, notamment s'équiper d'une base de données, améliorer la conservation préventive et trouver des espaces de stockage annexes. C'est En perspective aussi, en fait, pour le service, enfin non, je ne vais pas raconter comme ça, j'ai été amenée à... Non, la maison, excusez-moi. En 2014, c'est venu un projet artistique, en fait, de mécénat de Chloé, pour mécénat financier et mécénat aussi de compétences pour une performance imaginée par Olivier Saillard avec Tilda Swinton. Et il s'agissait pour Olivier de monter sur la scène de l'École des Beaux-Arts et de montrer en fait les processus de création d'une robe qu'il imaginait intemporelle, idéale. Donc le projet s'appelait Eternity Dress. Et Chloé a complètement accompagné en fait tout ce projet dans sa conception en expliquant toutes les étapes à Olivier du patronage, des premières toiles, etc. pour lui permettre en fait, et a aussi créé les modèles qui étaient présentés sur scène. Et de fil en aiguille, hein, c'est bon, le service patrimoine aussi a amené à être le référent vraiment culturel, parce que aussi tout le projet a été... le suivi de production a été fait par le patrimoine. Et de fil en aiguille, donc, le service patrimoine se retrouve aussi un espèce de référent culturel pour des projets artistiques au sein de la maison. Et c'est mais en perspective aussi, donc j'ai des nouveaux projets, je ne peux pas vous dire beaucoup plus pour l'instant, de collaboration avec des artistes contemporains qui vont être invités à porter leur regard sur le patrimoine de la maison et donc une façon de garder ce patrimoine toujours vivant. Voilà.
Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir partagé votre passion, de nous avoir fait rêver avec toutes ces robes. Donc ma question, en fait, c'est comment est-ce que vous arrivez à rassembler le maximum d'informations sur les dates, sur les archives, sur quel créateur, au final, a créé la robe? Parce que c'est pas facile de retourner en arrière, de regarder les magazines. Enfin, comment vous faites, en fait, pour avoir le maximum d'informations?
Donc, comme je vous disais, c'est tout ce travail en fait, de recherche qui a été fait dans les magazines. Maintenant, ça arrive très souvent quand je vois une robe maintenant en vente, j'ai quand même emmagasiné pas mal d'images en fait, dans ma tête. Ces photos de défilés, maintenant, j'ai quand même des collections complètes depuis 1972 de tous les défilés qui ont été produits par la maison. Les croquis aussi y contribuent. Donc c'est tout. Et puis aussi, j'ai oublié de saluer aussi les centres de documentation des musées, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je vous ai montrés. Donc, je pense que c'est peut-être sympathique quand même de souligner, je ne sais pas si Emmanuel est dans la salle, mais le formidable travail de conservation qui est fait par les musées, en fait, qui a anticipé ce travail que les maisons, enfin pour certaines, hein, donc Chloé, amorce de façon récente. Voilà. Et donc après, c'est un jeu de mémoire. C'est un puzzle, c'est un memory visuel pour arriver à retrouver les éléments. Je pense qu'une fois qu'aussi on a une base de données, ça permet d'aider. La griffe aussi a évolué. Donc en fait, là, c'est un de mes projets, c'est de faire la photographie de toutes les griffes pour vraiment arriver à dater les moments où il y a eu des changements de griffes. Ça nous permettra aussi de situer les créations dans des périodes de temps restreintes quand je n'ai aucune idée, en fait, du moment où elles ont été créées, ce qui arrive encore. Hein, j'ai encore des inconnus en fait dans la collection.
Merci.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Xavier. Si j'avais su que tu étais là, j'aurais insisté sur ton exposition. Je t'avais pas vu. Je reviens en arrière quand même. Xavier, qui est quand même le commissaire donc de cette exposition. Mission mode, style croisé au musée Château Borély de Marseille, entre autres choses.
Merci pour la publicité.
Non, merci de m'avoir emprunté une pièce.
Je voulais te demander, en fait, quand tu es arrivée chez la maison Chloé, en fait, tu avais plutôt un profil de productrice d'exposition et de chef de projet. Et aujourd'hui, tes activités tendent plutôt vers la conservation, d'autres métiers comme attaché de conservation ou conservateur. Comment s'est fait la transition dans tes pratiques aujourd'hui? Tu parlais tout à l'heure de recherche d'outils, de bases de données ou de toutes ces choses, problématiques qui sont en lien plutôt avec la conservation et qui diffèrent de la gestion de projet, de la mise en place de projets d'exposition, de valorisation.
Merci pour ta question. Bah, alors, je crois que, je ne sais pas si... Quand même, je vous ai présenté pas mal de projets qui ont été produits par le patrimoine, et je pense que c'est aussi un peu le problème, c'est que moi, c'est un peu mon dada. C'est vraiment une exploitation dynamique à travers des collaborations du patrimoine, et que je n'ai pas tellement, justement... J'aime beaucoup et que j'ai construit, le service aussi s'est construit comme ça, et ce qui fait que c'est un côté, parce, au sein de la maison, avec cette exposition en fait, qui s'est construite en même temps que les archives, et ce qui fait que maintenant, en fait, justement, j'arrive pas à travailler assez cet aspect vraiment de conservation, base de données, archivage pur et dur, parce qu'à la fois la maison me sollicite en fait, toujours maintenant sur des projets en fait, événementiels, et que j'aime ça. Et c'est là où justement il y a un enjeu en fait vraiment pour l'avenir de mon service qui est en train de se jouer.
Mais au sein de la maison Chloé, il y a quand même le désir de conserver et de pérenniser les collections, toutes les acquisitions que tu as pu faire depuis ton arrivée. Il y a quand même une envie de...
Oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que je veux aussi faire cette valorisation financière pour... en espérant qu'en fait, une fois qu'on mettra un chiffre sur la collection, ça aidera à débloquer aussi des moyens pour vraiment travailler la conservation pure et pas uniquement l'exploitation.
Et dernière question, est-ce que c'est un peu le fer de lance au sein des maisons de couture, est-ce que tu as un budget autonome pour ton département des archives ou est-ce que tu es rattaché à une direction
Alors, je suis rattachée à la communication, au marketing, mais j'ai un budget en fait, que je construis avec le contrôle de gestion chaque année qui est revu tous les trimestres. J'ai une question juste, parce que cette question de valorisation financière en fait, me tracasse, et si jamais il y a des gens qui ont été aussi amenés à procéder à ce genre d'opération, ça m'intéresserait d'avoir leur retour, parce que je suis toujours un peu perplexe. De savoir si un expert en fait qui va à la fois en fait donner des valeurs aux vêtements en salle de vente notamment, si on peut le faire rentrer aussi au sein de collections et si ça ne risque pas d'influer énormément sur le marché. Enfin, ça fait partie de mes problématiques actuelles et si il y a des gens qui ont été confrontés à cette question en fait de comment donner une valeur financière autrement qu'en passant par un marchand, je ne vois pas. Et enfin voilà, j'aimerais bien avoir vos retours aussi s'il y a des gens dans la salle qui veulent me faire part de leur expérience sur ce sujet.
Nous, on l'a fait chez Lacoste, on a fait expertiser nos collections qui ont beaucoup moins de valeur que des pièces telles que les vôtres. Donc, il n'y avait pas ce problème de cote ou de sous-cote en salle des ventes. En fait, ce qui fait la valeur d'un vêtement, c'est sa rareté, tout simplement.
Ouais. Puis je pense aussi que le fait d'avoir une collection documentée aussi doit évidemment influencer sur la valeur aussi de la pièce
oui,
par rapport
sûr,
à si elle est prise individuellement.
Okay.
Je veux bien qu'on se parle après.
Oui,
merci beaucoup.